Bienvenue dans le 33e numéro de L'écume des pages qui termine aujourd'hui sa grande table ronde critique autour d'une sélection d'ouvrages de la rentrée littéraire. Cette semaine, aux côtés de Mathieu Bossard, libraire chez Passage, et de mes chroniqueuses Marie, Eva et Héloïse, nous nous intéressons à des romans et à une bande dessinée qui regarde notre société autrement. Désastre écologique, crise des réfugiés et crise de la solidarité, violence sociale et lutte des classes, on reste cependant en littérature grâce au style et à l'humour qui s'en dégage. Et on commence tout de suite avec une ode à la fiction et au romanesque.
Oui, je crois que un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Après cette incursion du côté de l'autofiction, retour à des romans plus ouvertement romanesques justement, où la fiction ne cherche plus du côté de l'histoire, mais de l'imagination et de l'invention. C'est le cas, j'ai trouvé, du roman de Julie Wolkenstein, intitulé « Les vacances », paru chez POL. L'intrigue est assez fascinante, je trouve, puisqu'elle renie deux personnages. Sophie, un professeur qui arrive en fin de carrière, un professeur de littérature, et Paul, un jeune thésard, qui tous les deux s'intéressent à la tentative d'adaptation du roman de la comtesse de Ségur, Les petites filles modèles, par Romer, un film qui n'a en fait jamais vu le jour pour diverses raisons. C'est quelque chose d'attesté historiquement. Donc c'est un récit qu'on suit d'abord comme une enquête autour d'un film non tourné, avec des chapitres qui font alterner les points de vue de Sophie et de Paul. On arpente avec eux la Normandie, qui était le lieu du tournage. Et la première partie du roman est plus immédiatement consacrée à ce film disparu, tandis que la deuxième prend un tour un peu plus personnel, autour du personnage de Sophie en particulier. Mathieu Bossard, est-ce que ce roman vous a plu à vous ?
Ah oui, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Déjà pour le fait que la paire fonctionne très bien, je trouve, entre effectivement cette prof de fac qui part à la retraite et qui fait une dernière pige de l'autre côté de l'Atlantique pour le coup pour ce colloque concernant donc la comtesse de Ségur. Moi je trouve qu'elle a de la gouaille, cette prof de fac. Elle boit, elle fume, elle a un langage qu'on n'attend pas forcément d'une prof de fac. Et paradoxalement, son acolyte, son binôme, qui va l'aider à chercher donc, dans les archives les quelques pellicules du film de Romer donc, disparu. Lui, par contre, qui est donc deux fois plus jeune, voire trois, est complètement sur le retrait, est assez pour être son père. Hein. Mm-hmm. Donc il y a une espèce de comment dire, il y a un inversement là que je trouve très juste. Moi ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça intelligent aussi, puisque effectivement l'enquête de ce film disparu va petit à petit amener une autre enquête qui est donc cette enquête familiale, effectivement, une enquête familiale de cette prof de fac, et donc on va effectivement petit à petit glisser vers la connaissance de tout un monde familial, et je trouve que c'est très bien ficelé. Voilà, moi c'est drôle, c'est malicieux, on apprend quand même, on voyage aussi dans le monde de Romer. Voilà, moi ça m'a beaucoup plu, et puis c'est aussi une période, voilà, c'est la Normandie, c'est ses plages, c'est moi j'aime beaucoup la Normandie, j'aime Duras, donc forcément, je m'y suis retrouvé. Et voilà, donc moi j'ai trouvé ça très, très original en fait.
C'est aussi un roman qui m'a fait beaucoup de plaisir. Cette idée assez fascinante d'enquêter sur un film qui n'a pas été tourné finalement, mais dont on cherche à découvrir le pourquoi du comment. Ce binôme aussi est assez attachant et il fonctionne très bien puisqu'on a deux personnalités bien tranchées. La première partie du roman qui tourne autour donc de l'enquête m'a fait beaucoup rire aussi. On retrouve un peu le monde des campus novels de David Lodge, c'est-à-dire des romans plongés dans le monde universitaire. et on a des portraits d'universitaires qui sont extrêmement drôles et extrêmement vrais. Il y a aussi, Julie Wolkenstein nous dit aussi quelque chose de l'état de l'université aujourd'hui en France à travers ce portrait de prof désabusé, très attachante effectivement. C'est un ouvrage que c'est une lecture très agréable et un roman que je pourrais effectivement relire avec beaucoup de plaisir, donc que je conseille vivement à nos auditeurs. C'est donc Les Vacances de Julie Wolkenstein, paru chez POL. On va quitter un petit peu le monde du roman avec une bande dessinée qui n'est pas finalement qu'une BD, puisqu'elle met en scène une enquête avec des entretiens, des analyses sociologiques, du reportage dessiné et, disons-le aussi, beaucoup d'humour. L'ouvrage s'appelle Panique dans le 16e. Il a été écrit et illustré donc à plusieurs mains. D'abord, les sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot, spécialistes de la très grande richesse, et Étienne Lécroire, dessinateur donc de bandes dessinées et de presse. Marie, tu as lu justement Panique dans le 16e pour nous. Est-ce que tu pourrais déjà nous dire quel était l'objet de cette enquête et si la forme de la BD t'a convaincue ?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai trouvé l'idée de départ vraiment super intéressante. Enfin, très bonne idée. Quand j'ai vu ça dans la liste de suggestions, j'ai voulu voir à quoi ça ressemblait parce que c'est vrai qu'on mêle pas souvent sociologie, humour. J'ai trouvé vraiment que ça fonctionnait très, très bien. Donc, en fait, le couple Pinson-Charlot, comme il se présente aussi, part du fait divers, enfin assez médiatique, de l'émeute clairement qui avait eu lieu en novembre 2015, sinon en mars 2016, pas du tout. Mm-hmm. En mars 2016, à la suite d'une réunion, enfin durant une réunion d'information concernant un centre d'hébergement pour SDF dans le 16e arrondissement. Donc c'était un fait quand même très médiatique où on a vu littéralement des grands bourgeois hurler au scandale dans un arrondissement qui cultive vraiment son enclave sociale, sociologique, économique. Et donc le couple de sociologues part de ce fait pour mettre finalement des concepts sociologiques, des idées sur ce scandale en fait qui nous a tous choqués et scandalisés. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir partir de ça, de quelque chose qui nous a vraiment touchés et de pouvoir l'expliquer en fait finalement en quoi c'est scandaleux vraiment dans les faits. Donc ça se présente un peu comme une promenade dans le 16e arrondissement. Donc on a des anecdotes aussi sur l'enquête de terrain, les rencontres qu'ils font, donc il y a les dessins qui agrémentent tout ça, c'est vraiment agréable à lire. C'est pas du tout jargonnant. Alors peut-être que le penchant de ça, c'est que quelqu'un qui serait vraiment sociologue ou qui fait la sociologie, ce serait peut-être pas assez approfondi, mais je pense que c'était vraiment pas le but. C'est plutôt une amorce aussi à la sociologie, essayer de nous faire comprendre un peu qu'est-ce qui se déroule dans cet arrondissement.
Est-ce qu'on peut le voir comme un carnet de terrain finalement?
Tout à fait. C'est mêlé, donc il y a vraiment des moments carnet de terrain avec des illustrations. Il y a aussi des focus sur, par exemple, un groupe privé qui est dans le 16e arrondissement, une entreprise particulière, même des fois un concept. Donc des petits focus qui précisent les choses. Donc ça se présente, c'est assez, assez facile à lire, mais on apprend des choses quand même. Enfin, moi, ça m'a aidé à comprendre, puisqu'il faut savoir, oui, je ne l'ai pas précisé au début, mais que ce couple de sociologues est vraiment spécialiste des très grandes richesses. C'est aussi des militants très engagés. Et donc, comme on le disait en régie juste avant, apparemment, donc, ils ont pris leur retraite désormais du CNRS, et maintenant qu'ils sont à la retraite, ils se permettent aussi vraiment de délivrer un propos engagé. Etc. Donc ça s'adresse aussi à un public déjà convaincu. Enfin, on n'est pas non plus là pour nous convaincre. Je veux dire, en lisant avant de le lire, j'avais déjà conscience que c'était scandaleux. Donc on en sort aussi que toujours autant convaincu, avec peut-être une amorce pour essayer d'avoir envie de lire un peu plus, pourquoi pas, de sociologie. En tout cas, il n'y a pas vraiment d'espoir non plus qui s'en dégage. Il faut le dire, une dernière planche, c'est plutôt sur l'idée que finalement on ne pourra pas trop réconcilier les classes, même si on voit pourtant à la fin que ce centre d'hébergement a été accepté, on le sait désormais. Il y a eu des riverains du 16e qui ont été bénévoles dans le centre, par exemple, mais pour les auteurs, c'est plutôt de l'ordre de la bonne conscience. C'est vraiment un regard à charge quand même, mais j'ai trouvé ça très intéressant et très plaisant.
C'est donc Panique dans le 16e, c'est paru chez l'éditeur La Ville Brûle, sorti le 21 septembre dernier. On reste dans le domaine de l'humour et on retourne au roman avec le 8e roman de Joël Baquet, intitulé La Fonte des Glaces, et paru chez POL. Donc malgré ce que le titre peut laisser penser, le roman ne traite pas du désastre environnemental sur le mode catastrophiste, mais propose au contraire une histoire assez jubilatoire, une sorte de comédie autour quand même de la fonte des glaces et du désastre environnemental. La fonte des glaces, c'est donc l'histoire de Louis, un ancien boucher retraité, reconverti en héros de la cause environnementale, puisqu'une rencontre change un jour sa vie de fond en comble, celle d'un manchereau empereur empaillé, sous lequel il tombe nez à nez au détour d'une brocante. Donc Louis achète le manchot, l'installe chez lui en lui aménageant une véritable banquise, lui trouve des congénères, et à partir de là, il prend conscience de la précarité du manchot empereur menacé par la fonte des glaces. Dans la suite du roman, Louis embarque pour l'Antarctique finalement le récit devient son épopée, une épopée clairement fantasque. À travers, Joël Baquet dresse un portrait assez satirique de nos sociétés, prompte à se fabriquer des héros ainsi qu'une bonne conscience écologique. Votre avis, Mathieu Bossard, sur La Fonte des Glaces, est-ce que ça vous a fait rire déjà ?
Ah oui, moi j'ai beaucoup ri. Peut-être aussi parce que j'ai toujours trouvé que les manchots empereurs étaient très distingués. Donc c'est vrai que quand j'ai lu cette scène où effectivement, ce Louis qui est veuve depuis quelques années, qui s'ennuie à mourir, qui est rempli de petits rituels et qui d'un coup, dans une brocante, voit une armoire en bois qu'il trouve très belle et puis d'un coup il va l'ouvrir et il tombe nez à nez devant cette espèce de petite bestiole avec son cou mordoré qui se tient très bien, voilà. Enfin, moi, j'ai complètement adhéré à ça, cette nouvelle passion qui va effectivement, le ramener au monde finalement, parce que c'est aussi une histoire de quelqu'un qui change son rapport au monde. C'est comment effectivement on retrouve une joie de vivre, voilà. Mais alors sans effectivement tomber dans la niaiserie dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait c'est vraiment très drôle et surtout c'est encore une fois bien écrit. Joël Baquet est aussi poète et ça se sent dans ses tournures, dans son rythme. Voilà, moi j'ai complètement adhéré à ce voyage de l'Arctique à l'Antarctique en passant par le Québec, et puis mine de rien, justement, avec peu, il dégomme quand même pas mal de choses sur les questions de climat, ou de, même si ce n'est pas forcément le propos, mais quand même. Quoi. Non, moi j'ai beaucoup aimé, et je vous avoue que c'est un vrai plaisir de défendre ce texte en librairie, parce que souvent, on est quand même... c'est toujours très compliqué de trouver un livre drôle et en même temps de belle tenue. Et là, c'est un caviar, quoi. Donc voilà, non, il faut, là aussi, il faut lire ou découvrir Joël Baquet, vraiment.
Alors moi, justement, j'ai découvert Joël Baquet à travers ce livre. J'ai trouvé ça extrêmement caustique. Il a un vrai talent pour se moquer de certaines manies, pour arriver à décrire des traits de caractère, à saisir des personnages, à dévoiler un petit peu de manière humoristique, finalement, les mécanismes de récupération qui entourent aussi les causes écologiques. C'est un roman très réussi, je trouve, parce que Louis devient un symbole et aussi un symptôme d'un dérèglement plus général autour de lui. J'ai trouvé aussi que c'était un roman finalement faussement drôle parfois, puisqu'il y a quand même des thèmes comme celle de la solitude d'un homme qui est effarante quand on la décrit, qui est certes très drôle, mais c'est quand même assez effarant à lire. Et puis la seconde partie du roman, et en particulier la fin, je trouve, devient plus terne, mais sans doute de manière délibérée, plus terne et beaucoup moins drôle, assez amer et glaçant, j'ai trouvé. Je ne vais pas révéler la fin, mais voilà. Alors, je suis un petit peu ambivalente sur ce roman. J'ai vraiment beaucoup ri pour tout ce qui concerne la première partie jusqu'à son voyage en Antarctique. Puis après, les choses ont commencé à se dérégler et la fin m'a glacée, alors que le début m'avait fait éclater de rire. Donc voilà, je pense que c'est un roman effectivement qu'il faut lire pour le plaisir, pour rire. Et aussi... parce qu'il dit des choses de manière un peu plus subtile aussi derrière la couche d'humour. C'est un roman assez réussi à ce niveau-là. Effectivement, une écriture aussi qui est très belle et très agréable à lire. C'est donc La Fonte des Glaces de Joël Baquet, paru chez POL. On évoque de Gérard Mordilla, La tour abolie, paru chez Albin Michel en cette rentrée. Alors, le roman est construit sur le principe de deux mondes qui se croisent et qui coexistent dans une incompréhension et une violence totale, disons-le. Un lieu symbole fait coexister toutes les couches de la société. Il s'agit d'une tour, la tour magistère. 38 étages, du moins 7 au plus haut niveau. Alors, dans les sous-sols et le parking, on trouve une bande de misérables, de clochards, de dingues, d'illuminés, de toxicos, de meurtriers même, qui croupissent et qui vivent des restes du haut. Tandis qu'aux étages supérieurs, donc les responsables de magistère, leurs subordonnés, leurs collaborateurs, intriguent, machinent des plans sociaux et font l'expérience d'exercices de team building dignes d'une véritable start-up nation. Héloïse, est-ce que tu as été convaincue par ce principe de collision entre les deux mondes et est-ce que ça t'a emballé cette histoire,
hein? Alors oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que ça paraît comme une sorte de fable moderne, hein. Le ton est très satirique. Et donc, il faut quand même savoir que Gérard Mordilla, que l'histoire possède un fondement historique. Et c'est vrai que j'avais été assez surprise. Alors que bon, c'est très cru, mais ce qui est terrible, c'est que c'est surtout très vrai. Donc, Mordilla racontait qu'il avait été alerté il y a 3-4 ans par la CGT qu'il y avait sous les tours de la Défense des gens qui vivaient à demeure, c'est-à-dire qui vivaient dans les sous-sols en fait, de la Défense, donc à l'image de la tour magistère. Et ces gens, la CGT lui avait demandé de faire un documentaire. Donc documentaire qui n'a pas eu lieu. Mais Mordilla s'est quand même rendu là-bas lui-même avec une équipe nettoyeur. Et le constat qu'il a fait est celui qu'on retrouve dans le livre. Donc que à savoir comment c'est, on a des clochards qui sont sédentarisés. Donc certains ne sortent jamais de la tour. Hein, et ils possèdent donc, une méthode infaillible pour se défendre et faire reculer les étrangers. Eh bien, ils recouvrent de leur excrément l'endroit, afin d'empêcher les autres d'entrer dans leur domaine. Au moins 6 et au moins 5, eh bien, ce sont des junkies hein, qui se piquent de partout. Tandis qu'aux étages du moins 4, on a des ouvriers africains et des pays de l'Est hein, que deux camions viennent prendre tous les matins à 5 heures pour les emmener sur les chantiers. Donc autant de vies qui coexistent, tandis qu'à l'inverse, on a les grands cadres dans les étages supérieurs qui ont le train de vie qu'on peut imaginer. Et au moins deux, d'ailleurs, on a un couple qui vit dans la voiture, dont la femme travaille donc à la tour de l'étage, qui est aussi membre de cette tour. Et donc, cela renforce ce fossé qu'il y a dans ces deux mondes. Et donc, on a vraiment ici, et je pense que c'est ce qui finalement est le plus prenant, cette idée de descente aux enfers. Donc, Mordilla va transposer ce qu'il a pu voir dans les sous-sols de la Défense dans cette tour magistère, ces 38 étages, dont on va suivre la vie des différents cadres.
Pour rebondir sur ce terme de descente aux enfers, en fait, ça a été aussi une descente aux enfers pour moi à la lecture. Un récit alors, qui fait émerger un rire extrêmement grinçant, en fait, et un récit, je trouve, qui s'emballe, mais dans une espèce de folie générale et généralisée, qui n'est pas une expérience nécessairement très agréable pour le lecteur.
Non,
qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Oui, moi aussi, il y a vraiment un malaise qui se crée, en fait, et qui va jusqu'à l'embrasement final, hein, et qui autant par le train de vie à la fois des laissés pour compte, mais aussi des cadres qui finalement, voilà, il y a une sorte de violence en fait qui est omniprésente. Donc, d'un côté la violence physique des sous-sols, mais aussi la violence sociale envers ces personnes, mais aussi la violence de la direction vers les cadres. Hein. Donc il y a les différentes méthodes de management et aussi d'humiliation qui créent un malaise en fait aux différents niveaux. Donc c'est-à-dire que même si on est pris de pitié pour les laissés pour compte, les cadres ne nous font pas plus envie pour autant. Voilà, c'est ce malaise, je pense, qui s'imprègne en fait et qui glace aussi le spectateur.
Ouais. Que t'en penses, mais... un roman du malaise, oui.
Voilà, un roman du malaise, voilà.
Les pauvres sont bêtes, sales et méchants. Les riches capitalistes sont avides. Ils ont des maîtresses, ils n'ont pas d'âme et encore moins de compassion. C'est un récit, je trouve, qui joue beaucoup sur les stéréotypes sans forcément chercher à s'en extraire, en fait. Ce qui m'a peut-être aussi un peu gênée. On peut regretter peut-être le manque d'une nuance, mais en même temps, c'est un roman dont on ressent aussi l'authenticité, la vérité en même temps, ce qui crée aussi ce malaise pour le lecteur.
Et je pense que c'est vraiment l'effet qui était recherché par Mordilla, parce que celui-ci avait repris les propos de Jules Renard en disant que pour lui, il est un écrivain réaliste, mais réaliste dans le sens où c'est la réalité en fait qui le dérange. Et ce roman se veut à l'image de son niveau de dérangement. Mmh. Donc dérangement, je pense qu'il veut nous faire ressentir par des clichés, je suis d'accord, mais en même temps, c'est ce qui permet aussi, à mon point de vue, hein, c'est un peu ce qui donne aussi cette force au roman, où on est un peu dans une fable. C'est-à-dire que, on va pas dire que c'est trop gros, mais il y a des clichés assez forts, qui se fait qu'on là, on est toujours dans une sorte de satire, de fable satirique, qui marche, enfin, à mes yeux, qui avait marché un peu dans l'alchimie du livre.
Bien sûr, mais le mot de fable est d'ailleurs repris par l'éditeur hein, qui qualifie le livre de fable prodigieuse sur la société capitaliste et ceux qu'elle exclut. Je pense que c'est le mot en fait qui convient ici. Juste un point sur l'écriture pour moi, donc elle réussit vraiment à créer ce malaise, à nous le faire ressentir aussi parce qu'elle joue sur le grotesque, le difforme. Bon, t'as parlé de ses excréments, voilà, on a quelque chose de très un peu rabelaisien aussi dans le rire.
Complètement,
et qui est voilà, qui est une vraie expérience de lecture pour le coup, et je pense que Gérard Maudy arrive tout à fait à rendre ça. Bon, c'est un livre envers lequel je suis un petit peu ambivalente, justement à cause de ce malaise. C'est pas un livre vers lequel je me retournerai à nouveau pour une lecture plaisir ou détente. C'est une expérience quand même assez désagréable, j'ai trouvé, mais nécessaire aussi parce qu'elle nous confronte à une réalité.
Voilà, des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et donc, tu parlais des différents niveaux d'écriture. Mmh. Et justement, je pense que ce que j'aimais aussi, c'est que ça montrait les différents niveaux de langage en fait, qu'il y avait dans ce livre. Donc il y avait toute l'origine de la tour de Babel, hein, qui est clairement revendiquée dès les premières pages. Et on assiste vraiment, suivant les différents étages, à différents niveaux de langage. Donc autant ceux qui sont tout en haut vont posséder un langage à double sens, fait de mots-clés, et d'une lecture finalement qui peut être comprise à deux niveaux, notamment lorsqu'ils annoncent les fameux plans de licenciement. Tandis que ceux du bas sont confrontés finalement à une pauvreté du langage qui est traduite par l'écriture. Hein. Donc je pense notamment au passage avec boulot, etc. Et finalement, leur langage se fait à travers les injures et la violence. Hein. Ce sont des phrases de trois mots qui s'enchaînent. Et c'est ça aussi qui m'a assez plu, en fait, ce qui est surprenant et parfois déstabilisant lorsqu'on va à la lecture, mais qui m'avait plutôt emballée.
C'est le nouveau roman de Gérard Mordilla, La Tour abolie, paru chez Albin Michel. Et avant de clore cette grande table ronde critique, je me tourne vers vous tous. Est-ce que vous avez des coups de cœur à partager avec nos auditeurs pour des ouvrages que nous n'aurions pas évoqués? Mathieu Bossard, peut-être?
Moi, il y a vraiment un roman qui est pour moi un choc dans la rentrée. C'est le roman de Anne Godard, paru aux éditions de Minuit, qui s'appelle Une chance folle. Anne Godard n'a écrit qu'un texte, c'était en 2006, qui s'appelait Inconsolable. Et donc, elle revient à l'écriture 11 ou 12 ans après. Et franchement, c'est une expérience de lecture. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, des années après, ressaisit un événement qu'elle a vécu à l'âge où elle n'avait même pas 5 ans, donc à un âge où on n'a pas encore de mots, on n'a pas encore la conscience du monde qui nous entoure, on a juste du flou, on a juste... Et à cet âge-là, elle a connu un accident, elle était avec sa mère, avec une amie de sa mère, et elle s'est déportée de l'angle de vue de sa mère, et elle a tiré un fil, et une bouilloire lui est tombée dessus, et donc elle a été brûlée, toute une partie du corps, au troisième degré. Sauf que, ce qu'il y a de très très fort dans ce texte-là, c'est que se ressaisir alors qu'on n'avait pas eu les mots à l'époque, et qu'on n'avait pas la conscience de ce qui s'était passé, c'est quand même très compliqué. Donc, elle va essayer de comprendre finalement qui elle est par la langue de sa mère. Et ça, c'est très fort, parce que on se rend compte à quel point il y a un âge qui précède le langage et qu'on ne connaîtra jamais. Et comment dire, un âge où on appartient à ses parents, à sa mère, en l'occurrence ici. Et comment on fait pour finalement sortir de ce langage maternel qui nous emprisonne, et comment on fait pour faire en sorte que l'on devienne soi? Chez Anne Godard, ça va passer par l'écriture, forcément, ça va passer par sortir de cette langue des autres et du regard des autres, et de créer son propre langage. Est-ce qu'il y a une sortie? C'est pas sûr, mais tout tient à ça, dans cet essai de sortir de cette langue qui emprisonne et essayer de d'exister par l'exil dans la langue. C'est vraiment un texte sur l'emprise qui est vraiment très très fort. C'est une écriture où là, pour le coup, on parlait de non-dit tout à l'heure, les silences parlent pour le coup. Et ça, je trouve qu'il y a peu d'écrivains qui arrivent effectivement à le faire. Je parlais de Duras tout à l'heure, on est clairement dans cette filiation-là, sauf qu'elle a son propre espace littéraire. Donc pour moi, c'est un très très grand texte à faire découvrir, avec des pincettes, évidemment. Mmh. Dire un petit peu de quoi ça parle, mais voilà, pour moi, c'est peut-être le grand choc de la rentrée. Ouais.
Vous nous rappelez les références de l'ouvrage, donc ?
Oui, alors c'est le texte de Anne Godard qui a été publié aux éditions de Minuit et qui s'appelle Une chance folle, voilà, et qu'on recevra le 9 novembre à la librairie.
D'autres conseils peut-être autour de la table, Eva ?
Moi, je peux aussi recommander La chambre des époux d'Éric Reinhardt, qui est un beau roman sur la façon dont l'art, que ce soit l'écriture ou la musique, peuvent guérir des maladies. Voilà, et qui fonctionne sur une mise en abîme assez efficace.
J'invite tous nos auditeurs à aller regarder le programme à venir de la librairie Passage, qui organise des rencontres jusqu'à novembre avec des auteurs comme Jean-Philippe Toussaint, Timothée de Fombelle, Marie Richeux, Julia Deck, Anne Godard, vous venez de le dire. Le prochain rendez-vous, c'est avec Emmanuel Todd le 10 octobre à 19h, mais citons aussi Kauter Adimi le 20 octobre à 19h et Yves Ravet le 24. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur la page de l'émission sur transistor.fr. J'aimerais remercier toute l'équipe qui a préparé avec moi cette table ronde inédite, et ce, depuis juin. Malgré la distance, les vacances et la rentrée, j'ai nommé Anastasia, Alice, Aurore, Eva, Héloïse, Marie, Nicolas et Robin. Un grand merci aux maisons d'édition qui ont joué le jeu. POL, les éditions du Seuil, Flammarion, Rivage, 10-18, Gallimard, Albin Michel, La Ville Brûle, Stock, Actes Sud et Grasset. Merci également à ENS Média pour l'utilisation du studio son et à la technique. Merci à Marie Blanc, Marie Lécuyer et Rémi Cerda, sans lesquels ce numéro n'aurait tout simplement pas été possible. Et le meilleur pour la fin, merci à vous Mathieu Bossard, merci à Passage. Merci pour vous être prêté au jeu, pour avoir généreusement accepté notre invitation et peut-être, j'espère, d'autres invitations à venir.
Ce sera avec plaisir.
L'écume des pages, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions dans l'année, je l'espère, autour des auteurs, éditeurs, libraires et lecteurs qui font vivre la littérature aujourd'hui.